Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est 30 minutes pour parler cinéma. Et aujourd'hui, bien, il y aura un gros dossier, Manu, parce qu'un réalisateur nous a quittés le mois dernier et c'est un réalisateur que tu connais bien.
Oui, c'est Roger Corman qui nous a quittés donc le 9 mai, hein, qui est un réalisateur peut-être moins connu qu'en tant que producteur. Voilà, il a réalisé une cinquantaine de films et produit plus de 400 films.
Et toi, Sophia, tu vas nous parler d'un documentaire.
Oui, le documentaire de la réalisatrice Yolande Zoberman qui s'appelle « La Belle de Gaza ».
Quant à Guillaume qui n'est pas avec nous dans les studios, eh bien, il va nous parler de « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg, puisque le film ressort dans les salles de cinéma à l'occasion du 80e anniversaire de la libération, j'imagine. Mais nous commençons cette émission avec une fausse croisière romantique qui est organisée pour Franck, un gros investisseur qui cherche à séduire une femme. C'est le dernier film de Bruno Podalides, La Petite Vadrouille.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinérama.
C'est vrai, oui ou non?
Justine?
Oui, monsieur Poyac.
Je voudrais passer un petit week-end original. Je vous confie une petite somme d'argent et vous m'arrangez ça.
D'accord.
Le principe, c'est de s'en garder au moins la moitié.
On prend les mêmes et on recommence. Bruno Podalides a l'habitude de prendre les mêmes acteurs, allant non pas pour les premiers rôles, mais pour les autres. Depuis Dieu seul me voit, apparaissent toujours bien les mêmes trois ou quatre visages. Et puis, évidemment, son frère Denis Podalides. Et quoi de mieux pour faire un film sur un groupe d'amis fauchés disposés à se refaire amplement à plus riche qu'eux? Eh bien, de faire un film avec des amis de cinéma. Manque quand même à l'appel pour cette petite vadrouille, la trogne de Michel Villermoz qu'on a vu maintes fois. Alors si on avait déjà vu Sandrine Kiberlin dans Les Deux Alfred, c'est la première fois bien que Bruno Podalides fait tourner Daniel Auteuil. Parlons donc de ce scénario. Justine cadre dans une entreprise qui fait on ne sait quoi est chargée par son patron d'organiser pour lui une escapade pendant laquelle il va déclarer sa flamme à une femme. Elle a pour cela 14 000 euros, ce qui n'est pas rien. Son patron lui dit bien, eh bien qu'il faut quelque chose d'inattendu, d'exceptionnel, et qu'elle peut choisir quelque chose qu'elle aimerait faire. Avec une telle somme, elle voit surtout qu'elle pourrait permettre à son groupe d'amis, dont les membres doivent tous de l'argent à quelqu'un, eh bien d'éponger leurs dettes.
Il faut que j'organise un week-end de rêve.
On va tous se refaire.
Jocelyn, capitaine, Albin, commercial. Personne ne se connaît. On dirait qu'on prépare un hold-up.
Mais oui, mais c'est ça, c'est exactement ça.
Bonjour Franck.
Je suis votre capitaine et vous dites mon capitaine.
Voilà, c'est bien, très bien.
L'idée qu'elle trouve avec son mari vient en entendant une chanson au détour des courses. Il faut préparer un voyage en bateau sur les canaux. C'est ainsi que le groupe d'amis prévoit tout ce qu'il faut pour un week-end sur la Pénichette, un bateau à deux cabines qui file tranquillement, 9 km/h sur les canaux. Alors c'est peu, on prend le temps, mais c'est précisément ce que décide de faire le réalisateur, prendre le temps de la fiction. Je ne vais pas révéler l'identité mystérieuse de la femme qui doit monter à bord et vers qui le patron d'entreprise a jeté son dévolu, mais cela va bouleverser quelque peu l'organisation de ce petit voyage alors vraiment bricolé où le rosé est chaud, le vin blanc bien du vinaigre et toutes les escales sont hors de prix. Hein. Les escales sont à chaque écluse et des écluses, il y en a beaucoup. Bruno Podalides s'en amuse sur le ton de la comédie. Il use des situations de gags visuels, du burlesque et de running gag, hein, comme l'éclusier joué par la même personne, bon, qui se déguise un peu, qui revient sans cesse exiger son péage, comme si les canaux français étaient régis par une mafia sans nom.
Justine, excuse-moi, on est dans une panade inouïe.
Il n'est pas question qu'ils conduisent le bateau, hein.
Je me demande comment ils vont croire encore à cette histoire. Là, avec ce vin midi qui était de la super piquette.
Je vais pas faire le même mec à chaque écluse, quand même.
Tu te déguiseras.
Chacun respecte son engagement.
C'est une catastrophe, hein, permets-moi de le dire.
Il y a dans La Petite Vadrouille l'essentiel de l'univers de Bruno Podalydès, l'humour, la poésie, le sens du cadre, de la situation. Et puis, depuis un certain temps, eh bien, des balises hein, sur le monde que nous traversons. Ici, eh bien, il y a des QR codes et puis des signaux qui sont envoyés sur la jeunesse qui pourrait avoir des clés pour nous sortir de l'ornière. Dans le film, alors, il y a cette petite croisière hein, qui est une entourloupe, mais sur le même canal filent aussi des jeunes gens qui, eux, ont l'idée de prendre la mer. La Petite Vadrouille est en salle depuis le 5 juin. Nous parlons maintenant d'un documentaire sur les femmes trans en Israël, c'est La Belle de Gaza.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Mais avec joie.
Après M et Would You Have Sex with an Arab, la réalisatrice Yolande Zoberman conclut avec La Belle de Gaza, sa trilogie de la nuit israélienne. Son film documentaire commence presque comme une enquête pour la réalisatrice qui essaie de retrouver une femme trans, une silhouette qu'elle avait brièvement filmée avec son téléphone, de nuit, dans une ruelle de Tel Aviv lors d'un tournage précédent. La femme qu'elle recherche, qui est comme une légende urbaine, hein, aurait apparemment fui Gaza, en Palestine donc, à pied pour rejoindre la ville israélienne de Tel Aviv, où elle aurait enfin pu assumer sa transidentité. Le film se mue peu à peu d'une enquête à un portrait collégial assez diversifié. Hein. Les transsexuels à l'écran sont juives, arabes ou même de confession chrétienne, tout issu d'une communauté marginale hein, dont la figure de proue n'est autre que Téline Abou Hana, la toute première Miss Trans-Israël en 2016. Alors que cette dernière connaît la consécration, hein, elle est encore actuellement mannequin, personnalité télévisuelle, etc. Et qu'elle a pu, grâce à sa notoriété et cette reconnaissance publique, rafistoler ses liens à sa famille et notamment à son père hein, qui l'avait renié. Eh bien, la prostitution reste quand même le seul moyen d'existence hein, pour la plupart d'entre ces femmes trans arabes, en proie au mieux à l'incompréhension, au pire aux violences les plus abjectes et au rejet de leur famille et plus largement de toute la société. La cinéaste possède une manière de filmer, de s'intéresser à un sujet qui relève de l'intuitif et de fait elle nous embarque dans une véritable déambulation sensorielle nocturne à la rencontre d'une faune humaine, éblouissante hein, d'humanité, où se dessinent plus précisément 5 portraits, autant d'histoires, de parcours complexes aussi libérateurs que déchirants. Dans ce film nocturne, du dehors, scintillant, un souci esthétique particulier est au cœur de la mise en scène et impose des partis pris formels affirmés. La caméra embarquée nous plonge au cœur de cette flânerie urbaine, chargée de gros plans sur les différents personnages, des slow motion étirent les déplacements de ces femmes dans la rue, les mouvements de leurs hanches ou de leurs cheveux semblent rythmer la trame narrative de respiration presque destinée au plaisir scopique. Alors que l'attention se porte vraiment sur tout ce qui permet de se rapprocher hein, de l'essence des personnages et de restituer l'émotion qu'elles ont à se raconter à la caméra, cette attention se dédouble pour mettre également en avant le pouvoir d'attraction de ces personnages, leur force, leur brillance. Yolande Zoberman exploite la qualité sensuelle de la nuit pour tisser un conte du bitume étincelant de lumière au milieu d'une violente obscurité. Elle filme tout ce qui brille hein, et tout le métrage est ainsi cousu de scintillements. Dans les yeux des trans hein, qu'elle suit, dans les clignotements des lumières de rue, les strass sur les vêtements, les cigarettes qui se consument au coin de la bouche d'une silhouette au loin. Les portraits individuels se morphent dans celui de Tel Aviv, la nuit. Et il y a quelque chose d'un peu voyeuriste, hein, d'un peu intrusif qui émane, à mon sens, de sa démarche, de son enquête et de cette fascination esthétique assumée. Tell me, baby, part of my masculinity. What the fuck is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It would be short-sighted to try to be. Le film parvient tout de même à toucher par ses personnages et par le degré d'attachement que la documentariste réussit à nous faire nouer avec ces femmes extraordinaires, hein, extrêmement puissantes, qui mériteraient tout un temps d'expression et de confession beaucoup plus long. Les rencontres avec les différentes individualités et les spécificités de chacune paraissent écourtées au profit d'un sensationnalisme qui peut frustrer un peu le spectateur. Toutes les femmes de la rue filmées par Yolande Zoberman sont palestiniennes, à l'instar de ce garçon qui aurait marché à pied de Gaza à Tel Aviv pour y devenir une fille. Alors que le conflit entre Israël et la Palestine n'avait pas encore atteint les degrés qu'on connaît aujourd'hui lors du tournage, on peut vraiment se demander comment le film peut sortir maintenant avec ce titre, comment il s'inscrit dans la situation actuelle. Pour ne pas imputer d'intention infondée à la réalisatrice, hein, il est intéressant de l'écouter à ce sujet. Elle témoigne ouvertement de ses doutes hein, après le 7 octobre, donc l'offensive sans précédent du Hamas sur le territoire israélien. Mais la cinéaste prétend qu'après les projections de montage, où elle a été vivement incitée à finir le film, hein, notamment par la documentariste Alice Diop, elle prétend qu'il en est ressorti que le film console. Alors, qui est-ce qu'il console ? Les Israéliens, certainement. À mes yeux, le film participe à dépeindre une vision binaire, encore, du Proche-Orient, avec Israël qui serait comme un Eldorado pour ces femmes, comme si le pays les avait sauvées en leur offrant le droit d'être elles-mêmes sur son territoire. Alors qu'on parle quand même ici de femmes trans qui n'ont pour la plupart pas de papier et qui tapinent pour vivre et payer leurs opérations. Mais voilà, Israël leur aurait ouvert bien grand ses portes pour les réfugiés de la barbarie des Arabes, s'affichant comme un havre de paix pour les LGBTQIA+. Et de cette manière, le film se fait le relais d'une espèce de propagande ou de pinkwashing pro-israélien. Alors même que, en fait, on comprend dans les témoignages du film que même à Tel Aviv, ces femmes restent sujettes à bien des violences transphobes notamment. Peut-être que Yolande Zoberman aurait pu aller aussi loin dans son engagement politique qu'elle ne l'a fait dans sa fascination plastique pour la transidentité, puisqu'il n'y aura plus de Belle de Gaza, car les jeunes palestiniens et palestiniennes ne marchent plus pour assumer leur identité outre-frontière, mais pour trouver à manger et survivre au bombardement. Que penser de ce film dans lequel on nous montre un pays refuge pour un peuple qui subit de la part du gouvernement de ce même pays un véritable génocide?
La Belle de Gaza est en salle actuellement. C'est début mai qu'est mort Roger Corman à l'âge de 98 ans, réalisateur surnommé le roi de la série B. C'est un réalisateur que tu apprécies, Manu, et tu vas nous en parler.
This is Cinerama.
Et ça, c'est clair.
Effectivement, hein, il était surnommé le pape de la série B. Hein, c'est vraiment comme les cinéphiles aimaient bien le qualifier. Et donc, il est mort donc, le 9 mai dernier, à l'âge de 98 ans. Alors, que dire de cette figure incontournable du 7e art ? Dans Libération, hein, le journaliste Leo Soesanto hein, cite le critique américain Roger Ebert, qui disait de Corman en 67 un aspect intéressant de la carrière de Corman est qu'il est devenu la mascotte, sinon la coqueluche des critiques, tout en ayant certainement réalisé certains des pires films jamais faits. Alors, outre sa condescendance involontaire, je pense, hein, cette affirmation est injuste et peu représentative de ses travaux, surtout en tant que réalisateur. Même ses films mineurs sont marqués par un désir d'innover, hein, en camouflant des budgets dérisoires par des idées constantes de cinéma. Roger Corman a traversé l'industrie du cinéma en ayant réalisé une cinquantaine de longs-métrages et produit plus de 400 films, alors d'un intérêt à géométrie variable. Son nom reste attaché à toute une tripotée de B ou de Z, hein, mettant en scène alors aussi bien, alors il y a des crabes géants, des dinosaures, des femmes mutantes et autres créatures qui hantent on ne sait quelle contrée. Et puis même des plantes carnivores avec son film le plus connu, La Petite Boutique des Horreurs, réalisé en 1960 avec un tout jeuneau Jack Nicholson.
J'en ai par-dessus la tête de toi.
Il me faut de la nourriture.
Je me fiche de ce qu'il te faut. T'as vu ce que tu m'as fait? T'as fait de moi un boucher. Et voilà que tu fais partir Audrey maintenant.
Ferme-la et donne-moi à manger!
Comment ferme-la? C'est toi qui vas la fermer. Qui est-ce qui a planté les graines? Qui est-ce qui t'a mis de l'engrais de premier choix et qui t'a veillé quand tu étais malade? Personne d'autre n'aurait fait ça pour toi. J'ai été jusqu'à te donner de la chair humaine pour te nourrir. Personne d'autre n'aurait fait ça. Bon, disons que nous nous sommes aidés mutuellement. Tu vas la fermer maintenant et aller dormir.
Nous écoutions la voix française de la plante carnivore.
Oui, et encore, le doublage n'est pas atroce hein, par rapport à plein de séries Z de l'époque hein, ou de séries B. Hein. Alors, il fut un producteur, un dénicheur de talents unique dans l'histoire du cinéma américain. Hein. Passé par la case Corman, semble être la meilleure option pour devenir un cinéaste de renom. Un budget ridicule, un calendrier serré et un cahier des charges précis sont offerts sur un plateau pour commencer à faire ses armes. Alors, fidèle à sa réputation, Corman ne va pas vous lâcher un sou de plus. Alors, conscient que le cinéma est avant tout une industrie, qui doit rapporter, hein. Il n'en est pas moins un homme de conviction, alors plutôt de gauche. Hein. Son progressisme infuse dans ses films. En tant que producteur, investir dans une œuvre classée RSN et pas dans la politique de Corman, hein, trop attaché à ne pas perdre de l'argent et à tourner le plus rapidement possible des œuvres de qualité, car il y tenait quand même malgré tout. Hein. Le souci commercial et de rentabilité n'est pas contradictoire avec celui du travail bien fait. Alors, en grattant un peu, une personnalité complexe s'en dégage, hein, à la fois radine et généreuse, progressiste et capitaliste, féministe, ministre et érotomane. Il a lancé alors, la carrière, je vais le dire, hein, Francis Ford Coppola. Il a aussi produit l'un des premiers Martin Scorsese, hein, Bertha Boxcar, hein, sorte de Bonnie and Clyde, attachant hein, avec Barbara Hershey et David Carradine.
La vie de recherche de la police ne se limite pas à Brown et à Shelley, mais aussi à une femme, Bertha Tompkins.
Thompson.
Bertha Thompson. Une femme qui s'adonne à la prostitution dans toutes les villes où elle passe, il semblerait qu'elle ait pris une part importante dans l'évasion des détenus. La Thompson serait aussi impliquée dans la fusillade qui a eu lieu contre un procureur général très en vue. Nous signalons que tous les autres prisonniers en cavale ont réintégré le pénitencier, à l'exception d'un nègre. C'est sûrement toi, Vaughn.
Je suis pas d'accord avec ce qu'ils disent.
Bertha, qu'est-ce que c'est que cette histoire de fusillade?
Bon, c'était un joueur marrant.
La ferme!
Un accident! Tout le reste est faux.
Jonathan Demme, James Cameron, Peter Bogdanovich, Joe Dante, Monte Hellman, Ron Howard, Jack Nicholson sont les quelques personnalités issues de l'écurie cormanienne. Il a aussi permis à une époque peu propice à de jeunes réalisatrices de talent de faire leurs premières armes au sein d'un cinéma de genre. C'est le cas de Stephanie Rossman, Amy Jones, Barbara Peters, figures féminines de la série B, hein, qui hélas n'ont pas réussi à percer par la suite, alors pour des raisons que vous pouvez largement deviner. Alors, outre l'absence de budget, une production Corman est tributaire de quelques principes immuables d'une série B d'une autre époque, hein, de la nudité, de la violence et un sous-texte social. Voilà, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ou presque. Corman débute sa carrière alors, en tant qu'agent littéraire, hein, désireux de percer dans une veine plus artistique, il vend un scénario, Highway Dragnet, en 1954, frustré par les remaniements imposés sur son script par les producteurs, hein, il décide de devenir son propre producteur avec Monster from the Ocean Floor, suivi de The Fast and Furious, qui n'a rien à voir avec, évidemment, le film que vous connaissez. Alors, il va ainsi conclure un accord de distribution avec l'AIP, American International Pictures, qu'il crée en compagnie de deux collaborateurs précieux, Samuel Z. Arkoff et James H. Nicholson. Ces derniers l'accompagneront dans son travail pendant une bonne quinzaine d'années. Alors, il passe vraiment derrière la caméra, en 1955, avec un western en pâté color, Five Gun West. Il enchaîne l'année suivante avec un autre western, The Apache Woman, l'un des premiers westerns ouvertement pro-indiens. Donc, contrairement à ce que la plupart des gens pensent, Corman n'a pas commencé par le fantastique ou la SF. Hein. Le western lui a permis d'imposer sa marque de fabrique opportuniste, mais aussi profondément anti-hollywoodien. Personnage ambigu, intrigue linéaire sous-tendue par des revendications sociales, mise en scène sèche et précise. Alors, en parallèle à sa carrière prolifique de producteur, hein, Corman devient un réalisateur donc boulimique, signant alors près de 50 films en 16 ans. Vous pouvez imaginer. Hein. Il aborde alors de front tous les genres existants sur le marché du cinéma d'exploitation. Hein. La SF post-atomique avec l'attaque des crabes géants, le fantastique préhistorique avec Teenage Caveman, l'heroic fantasy avec the saga of the Viking Woman, film de gangster avec Mitraillette Kelly, l'épouvante gothique avec The Undead, la comédie noire, donc la petite boutique des horreurs, et puis aussi un trip filmique sur la drogue dans laquelle, pour être plus crédible, il a lui-même essayé pour la première fois de sa vie de se défoncer, en fait, hein, en compagnie de Dennis Hopper et Peter Fonda, voilà, puisqu'il devait réaliser Easy Rider, il faut le savoir. Alors, si son meilleur film reste à mon sens The Intruder, hein, brûlot politique antiraciste, il demeure à jamais dans le cœur des cinéphiles pour son admirable cycle Poe, Edgar Poe, hein, avec le génial Vincent Price, présent sur 6 films sur 7, dès l'ouverture, donc le magnifique La Chute de la Maison Usher.
Qu'est-ce qui vous prouve que vous devez mourir? Qui vous a dit ça?
J'ai bien des raisons de le croire.
Daignez m'en donner au moins une.
Madeleine et moi, nous ressemblons à de fines statuettes de verre. Un geste, un rien nous mettrait en miettes. Ma sœur et moi souffrons d'une même maladie vacuité de tous nos sens. La mienne est peut-être pire parce qu'elle existe depuis plus longtemps, mais le mal nous ronge tous les deux. La seule idée de manger quelque chose d'un peu plus relevé que la plus fade des bouillies cause à mon palais une souffrance atroce. Me vêtir d'une étoffe qui ne soit pas la plus douce cause une douleur intolérable à ma chair. Mes yeux sont tourmentés par la plus tamisée des lumières et des odeurs assaillent mes narines sans relâche. Et ainsi que je vous l'ai dit, tous les bruits, si ténus qu'ils puissent sembler, m'emplissent de terreur.
Ah, c'est pour ça qu'on m'a fait enlever mes bottes.
Oui.
Alors, à signaler que le scénario a été écrit par un grand écrivain qui est Richard Matheson. Alors, en 71, après un film de guerre, Le Baron Rouge, hein, coproduit avec l'Allemagne et l'Italie, il abandonne la mise en scène, préférant entièrement se consacrer à la production. Il crée la compagnie New World Pictures. C'est à cette époque, en pleine effervescence artistique, qu'il donnera une chance à une multitude de nouvelles personnalités, avides de renouveau. Hein. Certains considèrent les années 70 comme l'âge d'or du cinéma américain, aussi bien du côté d'Hollywood que des indépendants. Et le moins que l'on puisse dire est que Corman y participa pleinement, même de manière souterraine. Quelques pépites bis de la contre-culture émergent. Alors, Boxa Bertha de Martin Scorsese, dont on a écouté un extrait, Cinq femmes à abattre de Jonathan Demme, Piranha de Joe Dante, représentent ce courant réjouissant et contestataire. Alors, tout comme le délirant, La course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel, relecture alors agressive d'un dessin animé de mon enfance qui s'appelait Les Fous du Volant, dessin animé culte, hein, et ce film lance un petit peu la carrière, enfin de façon un peu souterraine, de Sylvester Stallone, et c'est aussi avec David Carradine.
Oh, chère immense et lumineuse foule, vous les sportifs américains, mes frères, ce jour nous fêtons la 20e édition de la grande course transcontinentale. Ce jour, devant vous, les plus valeureux parmi les femmes et les hommes de la plus valeureuse des nations vont risquer leur jeune vie dans un événement sportif inégalé depuis Spartacus. Dans 3 jours, un nouveau pilote sera champion d'Amérique et l'on verra le monde se prosterner en extase devant le prince de la violence.
Alors ce film, c'est vraiment l'ancêtre de Hunger Games. Voilà. Alors presque toutes les figures importantes des années 70 sont passées par la case Corman. New World Pictures deviendra même la plus importante société indépendante. Parallèlement à la production, hein, cette firme, sous l'impulsion de Corman, distribuera aussi durant les années 70 le cinéma d'auteurs européens, notamment les œuvres de Bergman, de Fellini et de Godard. En 83, Corman vend New World, loin d'être déficitaire, hein, mais le vent a tourné, les grands studios produisent de plus en plus de séries B avec des budgets de série A. Si les drive-in et double programmes disparaissent progressivement, les vidéoclubs alors redonnent une vitalité à la série B qui inonde les étagères de leurs jaquettes affriolantes. Hein. Corman l'a créé New Concord, firme uniquement destinée à la vidéo et aux chaînes câblées. Alors les personnalités qui s'en détachent sont nettement moins glorieuses que par le passé. Les films ne sont pas du tout du même niveau. Il va revenir même à la mise en scène le temps d'un sympathique Resurrection Frankenstein en 90. Actif jusqu'à la fin de sa vie, hein, Corman demeure un modèle pour de nombreux cinéastes en herbe et puis une ouverture possible vers le 7e art. La légende voulait qu'il suffise de toquer chez lui et de dire « je veux faire un film » pour que votre rêve se réalise. Alors bien sûr, sans argent et dans un temps record. Alors si vous souhaitez en savoir plus, hein, je vous engage juste à lire l'excellente autobiographie parsemée de témoignages précieux de ses poulains. Hein. Le livre s'appelle « Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime » et c'est édité aux éditions Capricci.
Bien, merci beaucoup hein, Manu pour cet éclairage. Donc sur Roger Corman, une quantité de films sont évidemment disponibles en VOD ou dans les médiathèques qui sont aussi bien des endroits où l'on peut trouver quelques pépites. Près de 350 salles en France accueillent le film de Steven Spielberg « Il faut sauver le soldat Ryan » et c'est pourquoi nous vous en parlons.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça c'est clair.
Ce garçon est vivant. Nous allons envoyer des hommes pour le retrouver. Et nous allons tout mettre en œuvre pour le sortir de là.
Oui, général. Oui, général.
Si l'histoire avec un grand H peut se révéler parfois horrible, elle peut être productrice d'histoires avec un petit H qui permettent d'exorciser ces traumatismes qui arrivent à transcender la terreur initiale. Alors, Il faut sauver le soldat Ryan fait partie de ces moments uniques où l'art s'empare d'un sujet, l'épouse totalement, arrive à le retranscrire au grand public avec une force inédite, d'autant plus puissante, qu'il n'est pas seulement qu'un grand film, mais également le genre de film qui change à la fois le cinéma, mais également la manière de faire du cinéma, en plus de bouleverser un genre tout entier.
Bah, moi, il me semble, capitaine, que Dieu m'a donné un don spécial qui fait de moi un superbe instrument de guerre. Ouais, Ben, fais attention à ce que dit ton camarade, c'est comme ça qu'il faut râler. Continue, Jackson. Bah, ce que je veux dire par là, capitaine, c'est qu'il suffirait de me mettre moi et mon flingue n'importe où, du moment que ce serait à 1 kilomètre d'Adolf Hitler, avec un bon champ de vision, capitaine, et faites votre pactage, les mecs, la guerre est finie. Amen.
C'est brillant, gros balourd. Et vous, capitaine, vous avez un avis, je veux dire, vous râlez jamais?
Je ne râle pas devant toi, Ryben. Je suis capitaine. On respecte la hiérarchie. On râle contre le supérieur, vers le haut, jamais vers le bas. Vous râlez devant moi. Et moi, je râle devant mes officiers supérieurs, et ainsi de suite. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je râle pas devant vous. Je râle pas en face de vous. Tu devrais le savoir, comme tout bon ranger.
Il faut sauver le soldat Ryan arrive en fin de course hein, d'une décennie passionnante hein, pour le cinéma américain, peut-être la dernière hein, en termes d'autant de richesse, et arrive à exploser l'édifice sur lequel il vient poser une pierre ultime en 98. Alors, tandis que d'autres genres se sont cassés la gueule comme le western, plus le temps a passé, plus le genre du film de guerre a pris en consistance et a su proposer des spectacles aussi inédits que spectaculaires. Mel Gibson a donné un immense coup de pied dans la fourmilière en 95 avec Braveheart et ses bastons à chevaux sans lesquels il n'y aurait pas de Seigneur des Anneaux 6 ans plus tard, tandis que Starship Trooper de Paul Verhoeven a su révolutionner la manière de représenter la guerre moderne en mêlant à l'ultra-violence mais à un sens du spectaculaire jamais vu dans le blockbuster américain. Alors, fort de ces tremplins qui, et c'est à noter, décide de fermer la page consacrée à la représentation du conflit au Vietnam qui s'était essoufflé après l'éprouvant outrage de Brian De Palma et avec l'échec de Entre ciel et terre d'Oliver Stone, Il faut sauver le soldat Ryan va changer quant à lui à jamais la façon de représenter la Seconde Guerre mondiale sur grand écran. Alors Exit à les morts, certes spectaculaire, elle aussi du jour le plus long, et bonjour au réalisme totalement immersif des années 90. S'il est sûr qu'on attendait un grand coup de la part de Spielberg après sa monumentale liste de Schindler, sortie en même temps que le beaucoup, beaucoup plus léger Jurassic Park, mais rien ne laissait supposer d'un tel choc. Caméra à l'épaule, sound design aussi agressif que les mitraillettes allemandes, la scène d'introduction qui voit la reconstitution du débarquement des forces alliées en Normandie suffit à elle seule de faire du soldat Ryan un classique instantané. Jamais le front ne fut retranscrit de manière aussi organique, prouvant dans ce chaos la maestria totale d'un Spielberg parfaitement maître de sa mise en scène. 25 minutes de légende et de fureur qui ne sont qu'un prélude à un voyage au bout de la mort pour mieux sauvegarder la vie.
Chez moi, quand je dis aux gens ce que je fais comme métier, ils se disent « Oh, je m'en serais douté ». Mais par ici, c'est un vrai... un vrai mystère. Alors il faut croire que j'ai changé. Et il y a des fois où je me demande si j'ai changé au point que même ma femme ne pourra pas me reconnaître quand je retournerai auprès d'elle. Et comment est-ce que je pourrais jamais lui parler de jour comme aujourd'hui? Ryan? Je ne connais pas ce Ryan, j'en ai rien à foutre. Ce type ne signifie rien pour moi, c'est juste un nom. Mais si... si aller à Ramel et le retrouver pour qu'il rentre chez lui, si ça me permet de retourner auprès de ma femme, ben alors... alors, c'est ma mission. Tu veux te tirer? Tu veux laisser tomber et aller te battre? Très bien. Très bien, je t'en empêcherai pas. Je te ferai même les papiers qu'il faut. Tout ce que je sais, c'est que chaque fois que je tue un homme, je m'éloigne un peu plus de chez moi.
La liste de Schindler était une reconstitution d'une histoire vraie nourrie par d'autres témoignages véridiques de survivants. Le soldat Ryan exploite la même formule pour aller encore plus loin dans l'exploration du sens du sacrifice et de l'humanité retrouvée. Schindler se rendait compte qu'il fallait agir pour nourrir les bourreaux de l'histoire avec un grand H. Les soldats de Tom Hanks vont aller jusqu'à l'absurde, soit le sacrifice de toute une escouade pour le salut d'un seul homme, pour mieux comprendre dans leur chair ce que le combat pour la liberté signifie et la moralité nécessaire qu'il sous-tend. Comme Schindler, ils vont comprendre que ce n'est pas qu'une guerre de territoire et que qui sauve une vie sauve le monde dans son ensemble. Spielberg signe le plus bel hommage qui soit à cette génération prise dans un feu et qui, au lieu de sombrer dans un gouffre, a décidé que la notion d'humanité était plus importante que leur propre vie. Par son réalisme et sa force, Il faut sauver le soldat Ryan aura non seulement changé le cinéma, mais également le monde du jeu vidéo, créant un nouvel et mérité engouement pour toute une jeune génération désormais loin des conflits. Car il est impossible de ne pas citer la série de jeux Medal of Honor, chaperonnée comme par hasard par les productions Spielberg, dont l'aventure ludique culminera dans un épisode nommé Débarquement allié où, eh bien, vous incarnerez rien de moins que le personnage joué par Tom Hanks dans une intro qui fait toujours son effet, mais presque 25 ans plus tard. Il faut sauver le soldat Ryan et donc bien ce témoin de ce que l'humanité est capable de faire de pire comme de plus beau, de l'horreur absolue de la guerre à la pureté de l'abnégation, du sacrifice pour autrui, de l'amour de la vie et de leur retranscription dans l'art comme dans ce chef-d'œuvre de Steven Spielberg qui ressort sur le territoire national.
Vous trouvez Il faut sauver le soldat Ryan dans 350 salles en France. Pour offrir la possibilité aux spectateurs des salles à réessai de découvrir sa sélection dans la foulée du Festival de Cannes, la quinzaine des cinéastes propose 10 jours d'avant-première des films de la nouvelle édition, donc dans une trentaine de salles partenaires. C'est le cas alors à Montpellier, Auch, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nancy, Nantes, Nîmes, Rennes, Rouen ou encore Strasbourg. Donc bien profitez de cet événement et je vous recommande, alors moi j'en ai vu qu'un seul film de la quinzaine des cinéastes, c'est Les pistolets en plastique, film drôlatique que je vous recommande.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine et toi, Sophia, tu as eu le plaisir à Cannes de voir le dernier de Léos Carax.
Oui, C'est pas moi, un essai visuel que le réalisateur avait donc fait pour une exposition.
Oui, un petit film de 30 minutes qui sera dans une trentaine de salles, mais nous en parlerons la semaine prochaine. À bientôt.